affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Académie, nous vous remercions de votre fidélité. Notre émission de ce jour sera consacrée à l'Europe, et plus précisément à l'identité de l'Europe. Nous avons eu en effet le sentiment que les multiples crises qui traversent l'actualité et qui en tissent la trame, crise économique bien sûr, mais aussi crise sociale, crise institutionnelle et tant d'autres, peuvent peut-être se rapporter peu ou prou à un trouble plus profond, un trouble identitaire. Nous avons coutume, sur ces questions, bien sûr, d'évoquer la mondialisation qui en serait la cause. Certainement joue-t-elle son rôle, mais n'y a-t-il pas aussi des causes plus profondes, des causes situées en nous-mêmes, dans la dynamique même de notre civilisation et des valeurs qui l'apportent ? Ce sont les questions que nous allons aborder avec Chantal Delsol. Chantal Delsol, merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Nous avons bien sûr choisi de vous inviter. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation, car au fil de votre carrière universitaire, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, écrivain. Au fil de votre carrière et de vos écrits nombreux, vous avez réfléchi à ces questions, et je pense plus particulièrement à un livre dont le titre parle de lui-même, un livre collectif, un ouvrage collectif que vous avez publié en compagnie de Jean-François Mattei, qui était donc titré « L'identité de l'Europe ». Nous voici donc dans le cœur du sujet. Lorsque l'on parle d'Europe aujourd'hui, disiez-vous en introduction de ce livre, il est nécessaire de procéder à un recadrage philosophique. Pour quelle raison ?
Pour quelle raison ? Parce que toute culture s'enracine dans une histoire originaire, dans des principes. Je ne parle pas de valeurs, parce que les valeurs, c'est relatif, mais disons des principes, c'est au fond des principes dogmatiques, il ne faut pas hésiter à le dire, traditionnels, il ne faut pas hésiter à le dire non plus, qui sont tout à fait au fond des choses. Et donc c'est de la philosophie que d'essayer de comprendre une culture, quelle qu'elle soit, la nôtre, comme les autres. Donc nous avons nous avions organisé un colloque avec Jean-François Mattei qui avait lieu à la Sorbonne, il me semble. C'est il y a déjà un certain nombre d'années, peut-être 5 ou 6 ans, je ne me rappelle plus, peut-être même plus. Et c'est donc Jean-François Mattei qui s'était occupé de faire publier les actes de ce colloque dans la collection de Charles Zarka au PUF, au PUF, oui. Et dans ce livre, il y avait notamment un chapitre qui avait été écrit par André Ressler, un Suisse d'origine hongroise, qui s'est spécialisé dans la question de la crise de l'identité européenne et de la honte des Européens devant leur culture. Donc je pense que c'est de cela que vous voulez parler.
Oui, ce qui semble d'emblée sidérant, c'est qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'existence même d'une identité européenne. Il nous semblait qu'au fil des siècles, cela relevait plutôt de l'évidence non débattue. Que s'est-il passé pour que soudainement cette identité soit mise en question, ne soit plus qu'un point d'interrogation?
Vous savez, d'abord, je pense que ce genre de crise d'identité, si on peut dire, ou de crise de foi en soi-même, c'est quelque chose finalement d'assez courant, disons que ça peut exister, ça existe pour les individus et ça peut exister aussi pour les cultures, après des ruptures, des séismes, des difficultés, historiquement ça peut exister. Et donc ce qui nous arrive à nous, déjà, n'est pas l'exception de l'exception, hein, je pense pas. Je pense qu'on pourrait trouver dans l'histoire d'autres moments de doutes profonds sur soi-même. Si on prend l'Antiquité, qui est un peu les périodes que je connais un peu, on pourrait dire qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ à Rome, il y a un moment de ce genre, un moment de profond doute de soi, doute des institutions, doute des principes, doute des certitudes elles-mêmes. Voilà. Et donc nous traversons un moment de ce genre, et ce qui explique que nous sommes en train de nous interroger sur nous-mêmes en nous disant: est-ce que nous sommes bien certains d'avoir raison, au fond, de vouloir continuer à être ce que nous sommes. Est-ce que finalement les autres ne sont pas mieux que nous ? C'est, parce qu'au fond, c'est ça la question qui affleure. Et donc, nous n'osons plus, bien sûr, nous n'osons plus asséner nos propres certitudes, comme ça s'est fait dans le passé. Le mot asséner, évidemment, très fort exprès. Mais nous n'osons plus même défendre nos propres certitudes, parce qu'au fond, nous ne sommes plus certains d'avoir ces certitudes-là. Donc, c'est un moment de profond désenchantement vis-à-vis de soi.
Oui, on se demande même si la question ne va pas plus loin. C'est-à-dire que avoir un doute sur ses propres valeurs et autres, finalement, c'est peut-être même, à certains moments, l'ouvrage le suggère, une des marques de fabrique de cette fameuse culture européenne.
Et bien sûr.
En revanche, on a le sentiment aujourd'hui que c'est l'existence même et la capacité à définir cette culture qui s'évanouit. C'est-à-dire, ce n'est plus nos valeurs ou nos principes sont-ils supérieurs ou méritent-ils d'être défendus face à d'autres modèles alternatifs, c'est ce modèle existe-t-il même vraiment ?
Oui, vous voulez dire que rien que le fait d'affirmer l'identité nous apparaît déjà comme une espèce de charge indicible. Oui, parce qu'effectivement, rien que le fait de dire son identité, c'est déjà l'affirmer. Ce n'est pas encore l'asséner, mais c'est déjà l'affirmer. Dire nous sommes ainsi. Et rien que ça, effectivement, ça nous fait peur parce que le fait de dire je suis ainsi, ça signifie au fond j'ai raison d'être ainsi. Donc nous n'osons même pas dire ce que nous sommes. On peut prendre des exemples qui sont d'ailleurs pas forcément politiquement corrects, ce qui est logique puisque ce qui est politiquement correct c'est de ne pas se dire. Hein. Mais si vous regardez par exemple l'identité de l'Europe par rapport à nos voisins, nous n'osons pas nous dire par rapport à nos voisins. Nos voisins les plus turbulents, je dirais, pour dire les choses de façon sympathique, il n'y a pas de raison de dire autrement, c'est l'islam. Et nous n'osons pas, nous n'osons plus dire que finalement, pour prendre un exemple, Israël, c'est le nom que Dieu a donné, que l'ange, cet Dieu a donné, après la lutte contre l'ange, de Jacob contre l'ange, celui qui a été fort contre Dieu, ça signifie ça, Israël, dans la langue vernaculaire de l'époque. Islam, ça signifie celui qui est soumis à Dieu. Ce qui nous identifie, nous, c'est la liberté. Mais nous n'osons plus le dire. Vous voyez, nous n'osons plus dire ça. Faire cette comparaison, c'est très très mal vu. D'ailleurs, je ne pourrais pas le dire à France Culture. Voilà. Donc, ça signifie bien que, à travers cet exemple, on pourrait en citer d'autres, que nous avons peur d'être ce que nous sommes. Pourquoi ? Parce que je pense que nous ne savons plus comment justifier cela, parce que nous avons l'impression que cette liberté, pour prendre cet exemple, nous a menés vers des terrorismes, vers des excès, vers bien sûr, enfin, tout mène à l'excès. Hein. Mais nous n'osons plus nous assumer, c'est vrai.
Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi le rêve un petit peu fou que la planète entière allait suivre ce modèle d'abandon de principes spécifiques ou de cultures spécifiques et que, du coup, ça supprimerait toute possibilité de conflit. C'est-à-dire que, sorte d'avancer, le progrès se confondant soudainement, non pas dans la définition de la culture, mais dans l'abandon de toute culture ou de toute différence, puisque celle-ci était naturellement à l'origine de conflits.
Parce que nous avons longtemps cru, et ça a duré jusqu'à, je dirais, une quinzaine d'années à peu près, au fond, le début du siècle, début du millénaire. Ce que nous avons longtemps cru, c'est que tout le monde allait être comme nous et nous imiter. Les textes de Fukuyama et autres, c'était finalement la fin de l'histoire. Tout le monde allait devenir démocrate, démocratique, etc. Et finalement, tout le monde serait comme nous, donc à la limite, on n'aurait plus besoin de se justifier. Mais la crise de l'identité dont vous parlez a commencé avant. Ce qui se passe aujourd'hui, pour poursuivre ce que vous êtes en train de dire, c'est que la situation est très très différente à présent et depuis très peu de temps finalement. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, au lieu d'être nous-mêmes en train d'étendre notre culture au monde entier, et au lieu de voir tous les centres culturels qui nous qui nous imitent avec passion, ce qui était notre idée il y a encore 15 ans, nous voyons au contraire plusieurs centres culturels qui se démarquent de nous avec une réelle passion aussi. Hein. Et on pourrait en citer trois, la Chine, hein, qui n'est plus du tout en train de dire « Attendez, nous aussi, nous sommes démocrates à notre manière, etc. Nous sommes des bons démocrates. » Pas du tout. La Chine dit « Les démocrates sont des fous qui donnent trop de liberté au peuple. » Et donc, ils nous critiquent de façon claire, et d'ailleurs avec des arguments qu'ils ont réels, hein,
et
théorisés, pas du tout des arguments à la noix. Hein. Et puis, bon, évidemment, l'islamisme fondamentaliste, hein, qu'il ne faut pas confondre avec, bien sûr, avec les musulmans en général, mais enfin, bon, il y a quand même une branche assez importante qu'on voit actuellement surgir dans plein de pays différents. Et puis, quand même, très très important aujourd'hui, la Russie orthodoxe poutinienne, hein, qui clairement va à l'encontre de nos principes. Donc nous sommes certainement d'une certaine manière puissants, je dis nous, l'Occident, et néanmoins nous sommes très très contestés. Seulement, nous avons du mal à répondre parce que c'est difficile pour nous de nous assumer en tant que tels. Donc, ça va devenir compliqué. Là, il va falloir que nous disions si nous voulons nous assumer et donc nous défendre en tant que tels ou pas. Mais c'est compliqué. On le voit bien dès qu'il y a un problème de guerre ou d'État, disons d'État polémique.
Nous pensions être le modèle vers lequel le monde allait tendre, et finalement, nous nous découvrons exception minoritaire.
Moi, je dirais pas ça, mais exception minoritaire, je sais pas, on n'est pas. Oui, on pourrait dire qu'on est minoritaire en nombre,
oui.
Effectivement, parce que quand on regarde. Et néanmoins, je pense que si on creuse un peu, je pense que c'est pas exactement ça. Ce qui se passe, c'est que nos excès ne sont pas acceptables. Et là, à ce moment-là, ça peut se comprendre beaucoup mieux. Disons que notre culture est tombée dans de tels excès que ça devient difficile à admettre pour bien des peuples ou des sociétés extérieures qui, à la limite, seraient prêts à nous suivre si nous restions des gens équilibrés. Mais nous ne suivrons pas si c'est pour tomber dans les excès. Si vous prenez comme exemple la Russie poutinienne, je pense que la Russie orthodoxe poutinienne serait prête à nous suivre pour discuter d'une société personnaliste. En plus, bon, l'orthodoxie, c'est quand même une branche de l'Occident. Hein. Pour devenir occidental moderne, il faut tomber dans les Pussy Riot, le mariage gay. Dans ce cas-là, eux, ils préfèrent ne pas.
C'est probablement un des paradoxes de l'époque actuelle, c'est que nous pensions qu'en gommant nos propres racines et nos spécificités, nous n'en serions que plus attrayants pour le reste de la planète. Et ce que vous dites tend à démontrer le contraire. Plus nous renions nos spécificités, notre histoire, nos principes, et moins nous serions attractifs.
C'est-à-dire que là, c'est pas vraiment parce qu'on les gomme, c'est parce qu'on on tombe dans les excès. Parce qu'au fond, c'est pas que nous ayons envie de gommer, par exemple, le principe de l'égalité en dignité, qui est quand même l'un des fonds principiers de notre culture, mais c'est que nous traduisons l'égalité en indifférenciation. Alors, c'est ça, au fond, qui ne va pas. C'est que nous ne savons plus, et c'est parce que nous ne savons plus réellement où sont nos principes que nous ne sommes plus capables de trouver leurs limites et leur équilibre. Nous les poussons à l'extrême, sans regarder exactement de quoi ils retournent et comment il faut les tenir, les assumer. Parce que je crois que nous connaissons très mal, au fond, notre propre culture. Et ce qui nous embête, c'est notre culture, c'est une culture chrétienne, judéo-chrétienne, et c'est ça qui nous embête, c'est que nous avons tout fait pour la déraciner, au fond, et parce que nous l'avons déracinée, nous ne savons plus très bien quelle elle est, quoi. Quelle elle est.
Comment remédier à cette sorte de frénésie quand vous parliez des principes dévoyés, je me demandais si finalement, dans tout ça, il n'y a pas aussi cette quête perpétuelle de mouvement, de changement, de refus de toute stabilité ou de principes immuables. Est-ce que tout ça n'est pas lié? Est-ce que ça ne vient pas en écho?
Le tropisme dont vous parlez, bon, le refus de l'immobilité, et puis cette espèce de cette manière de bouger sans arrêt, de vouloir constamment changer. On trouve ça chez Hannah Arendt dans ce qu'elle appelle le bougisme quand elle décrit le totalitarisme. C'est quelque chose qu'on trouve dans le totalitarisme. Que, contrairement à ce qu'on pense, le totalitarisme n'est pas quelque chose de fixe et d'immobile, effectivement. Et ça, je crois que c'est lié, au fond, à l'émancipation moderne et postmoderne. Personnellement, j'assimilerais ça à une forme d'infantilisme. C'est de l'infantilisme, ça, de ne pas savoir se fixer, de vouloir constamment changer, de vouloir constamment des choses nouvelles. Je crois que c'est un peu une affaire d'enfant gâté. Alors vous me direz, c'est peut-être assez faible comme explication, mais je constate quand même qu'on trouve ça dans le totalitarisme, donc dans les idées d'idéologie du 19e et qui sont réalisées au 20e, et puis qu'on trouve ça aujourd'hui dans ce qu'on appelle la postmodernité. Une volonté de changer constamment.
Vous n'avez pas le sentiment, lorsqu'on observe, j'y pense parce que vous parlez d'infantilisme, lorsqu'on observe les traits dominants de nos sociétés, est-ce qu'il n'y a pas un nombre important d'analogies à dresser avec le vocabulaire de la psychologie, voire de la psychiatrie ? C'est-à-dire que un individu présentant les mêmes caractéristiques que celles de notre société, ne serait-il pas déclaré presque fou, ou en tout cas atteint d'un trouble psychologique grave?
On peut toujours tout traduire psychologiquement, on peut traduire toute société en psychologie. Vous savez, à l'époque des siècles chrétiens, les croisades, on pouvait très bien traduire ça aussi en psychologie. Il y a une traduction psychologique de tout. On peut trouver des folies partout. Vous ne croyez pas que les inquisiteurs étaient fous? Est-ce que vous croyez que les croisés ne pourraient pas, à l'aune de notre psychologie, être considérés aussi comme un peu comme des fêlés? Vous ne croyez pas ?
Vous étiez certainement atteint d'autres pathologies.
Bon, il y a tout le temps des pathologies, au fond. À chaque époque, il y a des pathologies. Les psychiatres et psychologues et psychanalystes d'aujourd'hui vous disent qu'à l'époque de... Bon, il y a une centaine d'années, les enfants étaient atteints du syndrome du petit Hans, le syndrome freudien du petit Hans, c'est-à-dire un père qui avait une autorité trop grande. Et aujourd'hui, les enfants sont atteints d'autres syndromes qui sont en fait autorités inexistantes. Et ça crée d'autres pathologies. Donc au fond, on peut toujours tout traduire de cette façon.
Quel est le moyen de remédier aux pathologies d'aujourd'hui, alors pour, quelle est l'issue ?
Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, et je ne sais pas s'il y a une issue. En tout cas, je suis bien incapable de savoir quels sont par quels moyens on pourrait, disons, s'en sortir. Mais je crois qu'il faut... Il faut qu'on sache quel genre de principes culturels on veut assumer, et il faut ensuite les assumer... dans l'équilibre. Pour l'instant, on ne sait pas très bien qui on est. Enfin, en tout cas, on, l'ensemble de la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des groupes qui sachent très bien qui ils sont.
Est-ce que finalement, poser la question de l'identité, poser ce débat-là, n'était pas une si mauvaise idée que cela ?
Pourquoi ?
Pas seulement l'identité nationale, mais aujourd'hui, la question de l'identité est plutôt laissée aux marges, mise sous le boisseau.
Mais c'est mal vu. C'est mal vu, l'identité.
C'est pas la meilleure façon de préparer l'explosion ou l'exacerbation que de la nier de cette façon?
Ah ben oui, très certainement. C'est toujours mauvais de nier une question qui se pose vraiment au fond, parce que du coup, on l'oblige à rester au fond des cœurs, et là elle se développe comme la fumée dans la cocotte minute, hein, comme finalement un jour ça explose, c'est très mauvais effectivement. Mais c'est vrai qu'actuellement c'est assez mal vu de parler d'identité, parce que comment dit-on, on a toujours un adjectif pour dire que les identités c'est racis, c'est moisi, c'est, vous voyez, c'est pas ouvert. Donc c'est mal vu. Je crois qu'au contraire, il faut poser cette question. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'avec Jean-François Mattei, on l'avait posée, même si c'était un peu, c'est toujours un peu provocant. Hein. Il y a tout un tas de textes qui ont été écrits par des philosophes contre les identités, à partir des écrits de Derrida, notamment, ou Jean-Luc Nancy. Ils disent, mais attendez, nous n'avons plus d'identité, nous sommes tous des citoyens de la guerre. Oui, on peut toujours dire ça.
Est-ce qu'un des verrous à faire sauter n'est-il pas cette idée peut-être fausse, disons-le, fausse, selon laquelle l'identité serait nécessairement opposée ou conduirait à nier l'universel? Est-ce que finalement il ne faut pas réconcilier ces deux idées-là?
Oui, bien sûr. C'est la thèse de ceux qui disent qu'il ne faut pas parler des identités. Ça nous empêche d'aller à l'universel. Et je crois que, effectivement, nous sommes tenus en permanence de tenir les deux fils qui relient l'universel et le particulier. Mais nous ne pouvons pas nous passer des identités particulières. Et puis des singularités, ce qui est encore autre chose. Mais je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Nous ne pouvons pas être des purs cosmopolites, des purs esprits universels, parce que précisément nous sommes incarnés. Donc le grand tort de certains courants modernes, postmodernes, c'est de penser qu'on peut être des purs cosmopolites, des gens complètement détachés de tout. Bon, ça n'existe pas. Donc, il faut assumer nos identités, nos particularités. Et c'est à partir de là qu'on pourra s'établir aussi sous des cieux universels. Mais sinon, être des purs cosmopolites partisans de l'universel, attaché nulle part, ça n'existe pas.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les identités particulières sont une voie d'accès à l'universel?
Oui, bien sûr, je pense, à condition évidemment de chercher cette voie d'accès, parce qu'on peut aussi, et c'est ce que nous reprochent les partisans du cosmopolitisme souvent, et ils n'ont pas tort à cet égard, mais on peut aussi s'endormir dans les particularités, s'y trouver bien, et puis finalement ne pas vouloir en sortir. Donc à ce moment-là, on devient... des gens sans tolérance, voyez, et qui ne regardent le monde qu'à partir de leur propre point de vue. C'est très mauvais aussi, parce qu'il faut regarder le monde de plusieurs points de vue. Donc il faut bien garder un pied dans ses particularités, mais il faut aussi s'en sortir. C'est toujours de l'équilibrisme, mais c'est ça l'humanité en même temps.
Et c'est singulièrement cela l'Europe aussi, non ? L'équilibrisme.
Alors, c'est aussi la question européenne, parce qu'au fond, la question qui se pose pour les individus se pose aussi pour les sociétés, pour les cultures. Il faut que nous soyons bien convaincus de ce que nous sommes, il nous faut assumer ce que nous sommes, y compris ce que nous avons été, et voilà, c'est sans problème. Il n'y a pas de raison de ne pas assumer, mais en même temps, il faut tisser des ponts, c'est très à la mode, pour aller vers les autres, pour essayer de les comprendre. Mais maintenant, ce que vous entendez partout, il suffit d'ouvrir le bouton de la radio, on vous dit il faut enlever les pierres. Les pierres des maisons pour construire des ponts. C'est-à-dire qu'il faut supprimer les maisons pour faire à la place des ponts. Non, c'est pas ça. Il faut garder les maisons et en même temps construire des ponts. Parce que c'est pas, il faut pas s'imaginer qu'en enlevant les pierres des maisons, on va construire des ponts. Parce que quand il n'y a plus de maisons, il n'y aura pas de ponts non plus. Je crois que c'est ça l'erreur qu'on fait.
Vous voulez dire que lorsqu'on sait qui l'on est, on a aussi moins peur de l'autre.
Oui, à condition de faire un effort pour ça, parce que parfois il y a des gens qui savent tellement bien qui ils sont que finalement ils ne sont que ce qu'ils sont, et ils voudraient que tout le monde soit comme eux en plus. Donc ça c'est pas terrible non plus. C'est justement pour échapper à ça, justement, qu'on démolit les maisons, pour reprendre cette image. Donc ça, il faudrait le comprendre aussi, je pense.
Et l'inverse, pour non pas pour conclure, mais Cette volonté d'indifférenciation, en quelque sorte, ou de rupture avec les racines, n'était-ce pas aussi un formidable orgueil?
Oui. Oui, bien sûr qu'il y a de l'orgueil, parce qu'au fond, nous autres humains, nous sommes entraînés par le fond, par notre particularité. D'une certaine manière, elle nous entraîne par le fond. Quand on parle d'indifférenciation aujourd'hui, on parle forcément du gender. Bah, écoutez, vous êtes un homme, moi je suis une femme. Nous sommes d'une certaine manière entraînés par notre différence, par nos différences. Elles nous submergent, elles nous plombent. C'est vrai, nous avons parfois du mal à nous en sortir. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez très bien, certainement, ce que je veux dire. Et ça nous humilie d'une certaine manière. Donc ce que nous aimerions, c'est être au-dessus, c'est être libre, c'est être distancé, c'est pouvoir choisir. Et bien sûr, c'est de l'orgueil, je suis bien d'accord avec vous. Mais ça n'est pas comme ça, ne marche pas comme ça. Nous ne pouvons pas être Dieu. Donc nous ne sommes pas des anges. C'est ça au fond. Le gender, c'est au fond la volonté de faire en sorte que nous soyons tous des anges. Ça ne marche pas comme ça.
Le trouble qui s'empare de l'Europe et peut-être singulièrement de la France. Tiens, avant de vous poser la question que je voulais vous poser, on va faire un petit détour. J'ai découvert en lisant votre ouvrage que cette question de l'identité était également posée dans d'autres pays d'Europe, notamment dans sa partie orientale, mais selon des termes très différents. Est-ce que ce trouble et cette question identitaire ne se pose-t-elle pas avec davantage d'acuité, si oui, pour quelle raison, en France que dans d'autres pays, ou au moins dans la partie occidentale de l'Europe, davantage que dans sa partie orientale, et si oui, pourquoi?
La France, d'une certaine manière, le fer de lance de la pensée émancipatrice, c'est le pays qui a mis en place la Grande Révolution, qui a été au fond la première véritable révolution émancipatrice, avec tous les excès dont on peut se souvenir. Et donc c'est le pays au fond qui est très avancé dans la différenciation à cet égard, parce que au fond l'émancipation, elle va là quand elle va à ses excès. Donc la question de l'identité telle que nous venons de la poser se pose beaucoup en France. Maintenant, vous parlez de l'Europe orientale, donc, ce sont des zones que je connais assez bien, dans lesquelles je me balade pas mal depuis une vingtaine d'années. Mais ce sont des gens qui ont un lourd problème d'identité, mais pas du tout ce type de problème d'identité, plutôt un problème d'identité nationale, qui est tout à fait différent, parce que ce sont des pays brisés, cassés, rendez-vous compte qu'il y a une vingtaine d'années, au moment de la chute du mur, la plupart des frontières ont été brisées. Et au cours de leur histoire, ils ont eu des frontières supprimées, sacrifiées, ben, très 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 souvent. Souvent, ce sont des gens qui ont pu, dans le passé, ne pas savoir de quelle nationalité ils étaient. Vous aviez en Pologne, par exemple, c'est le pays que je connais le mieux, des pays qui savaient pas s'ils étaient à tel moment russes, polonais ou autres. Donc si vous voulez, là, il y a un problème d'identité nationale énorme. L'histoire qu'on raconte dans les pays tchèques, c'est quand on parle de l'identité, la question tchèque, c'est la question primordiale. Pour un tchèque, la question tchèque est la question primordiale. Et c'est vrai pour beaucoup de ces pays qui ne savent pas vraiment qui ils sont d'un point de vue national. C'est tout à fait autre chose que la question dont nous parlons de l'identité culturelle. Parce que eux, ils savent très bien, au contraire, quelle est leur identité culturelle. Alors ça, ils assument beaucoup mieux que nous.
Je voulais citer une phrase de Vaclav Havel qui figure dans le livre. Et donc, il disait ceci. Si nous optons pour l'efficacité, nous allons peut-être obtenir un succès, mais au lieu de choisir l'Europe, nous allons choisir la civilisation post-industrielle contemporaine. Est-ce que finalement, c'est pas aussi ça la vraie question, choisir entre l'efficacité?
Oui, mais là, je sais pas d'où sort cette phrase, parce que je comprends pas très bien ce qu'il veut dire, à vrai dire. Plutôt que de choisir l'Europe, il choisirait.
Il expliquait que le chemin était plus ardu, était celui de choisir l'Europe et pas seulement celui de l'efficacité immédiate. C'est-à-dire qu'il affirmait la volonté, celle probablement de ses concitoyens, de faire un choix de civilisation et pas seulement le choix d'une rationalité technocratique ou économique.
Oui, d'accord. Oui. Oui, mais Havel est l'un de ceux qui, après la chute du mur, a le plus décortiqué l'idée européenne. Et bon, il avait de grands prédécesseurs, puisque la Tchécoslovaquie est le seul pays où il y a eu deux philosophes dans le siècle. Donc il y avait Masaryk au début du siècle. Et puis c'est un héritier de Patočka. Donc la question européenne, il connaît bien et il est très attaché à ça, effectivement.
Pour ces vues d'Europe orientale, l'Europe aujourd'hui?
Oh ben, elle est calamiteuse. Elle est calamiteuse pour eux. Et ça, je pense que c'est... Il n'y aurait pas beaucoup de problèmes pour le dire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens du centre-est qui ne disent pas ça. Même ceux qui sont dans les institutions européennes, et encore plus d'ailleurs, sont absolument terrifiés. Non, l'Europe est une, vous savez, l'Europe est une construction, au fond, est une construction française, hein, carrément. Et donc, ça s'est construit à Bruxelles, mais c'est une construction française, ou si vous voulez, franco-belge, je ne sais pas comment il faut dire, mais elle est carrément dans le courant, effectivement, de l'indifférenciation dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et c'est assez terrible, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Et d'ailleurs, je pense que ça ne pourra pas durer, parce qu'on ne peut pas construire un ensemble de cette façon. Ce n'est pas possible.
Qu'y a-t-il après, alors? Je vous demande un pronostic un petit peu hasardeux.
Ça, mais... ça je ne sais pas du tout.
Des options?
Je ne sais pas du tout, mais... Le problème, c'est que l'Europe a été construite quasiment... à l'envers, hein, d'un point de vue institutionnel, il aurait fallu mettre en commun ce qui était régalien, hein, c'est-à-dire la défense, l'armée, la définition de l'ennemi, en fait, c'est ça qui est régalien. Mais comme on ne voulait pas faire ça, parce que chaque pays voulait garder sa souveraineté, on a mis en commun tout ce qui devait être gardé en bas. C'est-à-dire qu'on a mis en commun la culture, l'école, la chasse, la définition du chocolat et toutes ces choses qui sont des détails, mais très importants pour les gens et qui auraient dû être décidés à la base. Donc finalement, nous sommes enserrés dans des réglementations, et alors que, si vous voulez, on est obligé de mesurer les cages à poules de façon européenne, mais on ne peut pas envoyer d'armées dans les pays en guerre ensemble. Alors que c'est exactement le contraire qu'il faudrait qu'on puisse faire. Envoyer une armée commune, et puis pouvoir définir chacun les cages à poules ou le chocolat. Donc c'est n'importe quoi.
Pour trouver une lumière dans ce tunnel, quel conseil donneriez-vous, non pas à la société tout entière, pas des démiurges, loin de là, à un homme ou une femme d'aujourd'hui, souhaitant... recouvrer son identité de façon sereine.
Oula, c'est très difficile, hein, comme question. Moi, j'ai pas de conseil. Vous savez, pour recouvrer son identité, il faut avoir des croyances. Hein, donc c'est pas moi qui vais dire quel genre de croyances on peut avoir. Mais je pense que quelqu'un qui sait quel sens il donne à sa vie et en quoi il croit, à ce moment-là, il a une identité. Mais l'identité, ça se trouve pas dans une pochette surprise. Vous voyez ? Donc c'est vraiment une question de savoir à quoi on croit. À chacun de voir. Hein.
Pour ceux qui voudraient se pencher sur cette question de l'identité de l'Europe, on ne peut toutefois que conseiller la lecture de l'ouvrage publié donc par Chantal Delsol et Jean-François Mattei. Je rappelle qu'il s'agit de l'identité de l'Europe, publié aux presses universitaires de France. Merci de votre écoute. Je vous souhaite... bonne lecture, et je vous remercie de votre fidélité. À bientôt sur les ondes de Canal Académie.
Merci à vous.